Et maintenant, on va retrouver Bobonne, les mots croisés et la radio.
La beauté d'une voix, c'est qu'elle remplit seule une salle immense.
Restez une minute, je viens vous parler.
Je vous écoute.
Bientôt, l'heure de la révolution nationale sonnera.
Et vive la reine !
Vive la reine !
Bonjour, c'est Lucie. Vous écoutez L'Arène, l'émission d'information locale de Canal B. Et au menu aujourd'hui, l'info du jour, les collectivités locales planchent sur le problème du logement étudiant. Une interview avec les cadets de Bretagne pour annoncer Cadence Urbaine, deuxième édition. Il y aura de la musique, dont une nouveauté, un portrait de bénévole à Canal B avec Antoine Filias aujourd'hui, l'animateur du Tri Sélectif. Et puis deux recommandations, ciné et spectacle. Bienvenue dans L'Arène. Vous le savez, on lance toujours l'émission d'information locale avec une info que je sélectionne pour vous parmi d'autres dans la presse locale. Aujourd'hui, retour sur la réunion d'acteurs institutionnels qui planchent sur le problème du logement étudiant dans la région rennaise. La semaine dernière, mardi 2 avril, la maire de Rennes et présidente de Rennes Métropole, Nathalie Appéré, avec le recteur académique Emmanuel Etis, ont consacré la conférence métropolitaine de l'enseignement supérieur et de la recherche au thème du logement étudiant, en compagnie de l'ensemble des acteurs universitaires et académiques du territoire. Objectif, activer tous les leviers opérationnels possibles pour faire face au manque de logements étudiants abordables pour les prochaines rentrées. La situation, c'est la suivante. Le nombre d'étudiants croît de façon continue, plus 23% entre 2010 et 2020. Mais ce public, il n'est pas épargné par la crise générale du logement. Au contraire, plus la population a du mal à se loger, plus les publics spécifiques sont touchés, particulièrement les étudiants issus de milieux modestes et ou boursiers. Le programme local de l'habitat de Rennes Métropole, il prévoit déjà la construction de 1000 logements étudiants sur la période 2023-2028, du logement en CROUS, mais aussi en lien avec les bailleurs sociaux et dans le parc privé. Et pour aller plus loin, la région et Rennes Métropole vont diriger 2,6 millions d'euros supplémentaires vers le volet logement étudiant du contrat de plan État-Région. Ce sont donc 268 logements CROUS qui vont voir le jour à Rennes d'ici 2027. L'État s'apprête également à mettre du foncier à disposition des bailleurs sociaux pour y construire des logements à tarifs modérés. D'autres leviers de plus court terme ont également été identifiés. Il y a le fait d'optimiser les capacités d'hébergement dans les résidences CROUS et dans celles des établissements d'enseignement supérieur, faciliter l'occupation temporaire de logements sociaux vides dans l'attente de travaux de rénovation, construire des habitats modulaires, donc de type préfabriqué, sur les fonciers publics de l'État, et enfin soutenir des projets de logements chez l'habitant. Allez, après cette info du jour, on passe à l'interview. Yoann Gageot et Armel Henry, bonjour.
Bonjour.
Je vous présente, vous faites partie des Cadets de Bretagne, une association qui organise le week-end prochain Cadence Urbaine. C'est un événement pour mettre en lumière les cultures urbaines et ça se passe samedi 13 avril dans vos locaux qui sont situés rue d'Entrain. On est sur le quartier Maurepas ou on est à la frontière avec le quartier Maurepas officiellement ?
Alors officiellement on fait partie du quartier 5, quartier Maurepas, mais on est vraiment proche du quartier aussi Saint-Martin, proche du quartier Jeanne d'Arc. Donc c'est un peu une chance qu'on a sur le bâtiment, c'est qu'on est vraiment limitrophe avec pas mal de quartiers.
Et donc pas loin du centre-ville de Rennes finalement. Donc tous les deux vous êtes salariés de cette association des cadets de Bretagne, l'un coordinateur sportif et l'autre apprenti dans le champ de la communication. On va commencer par représenter l'association, une asso qui est identifiée comme sportive, mais aussi socio-culturelle. Il y a donc plein d'activités qui sont proposées tout au long de l'année. Qui sont les équipes et puis pour faire vivre, quelle mission ?
Alors du coup, oui, comme vous disiez, on est vraiment une association sportive, mais aussi socio-culturelle. Il y a pas loin de 42 activités au sein de l'association, avec une grande majorité quand même de sportives. Pas loin de 2200 adhérents cette année. Donc on a vraiment bien augmenté ces chiffres-là. Et puis, donc on est une équipe de 30 salariés avec 14 sportifs, équivalent temps plein. J'ai plus de ça de mémoire, mais ça représente quasiment 10 ou 12 salariés équivalent temps plein. Donc c'est une belle association qui continue de grandir d'année en année et on en est fiers.
Le public visé, ce sont plutôt les jeunes. On est sur du 9-15 ans ou ça va au-delà?
Alors, on a vraiment une palette assez large. Le plus vieil adhérent a 92 ans. Et le plus jeune doit avoir 2 ans et demi. Ouais. Parce qu'on fait aussi le mercredi du centre de loisirs dans les écoles. Donc voilà, c'est assez large. Après, le public cible, c'est quand même public assez jeune. On va dire 10-15 ans, quoi.
Sur les activités proposées, bon, y a des choses très classiques, football, basketball, mais il y a aussi des nouvelles activités qui entrent chaque année dans la grille des activités que vous proposez. C'est une façon de se mettre un peu à la page par rapport aux envies des adhérents.
Alors exactement, cette année on a aussi lancé un questionnaire à nos adhérents et aussi aux habitants du quartier pour savoir quelles activités pourraient leur plaire et se mettre un peu... au goût du jour. Cette année, on a rajouté du parcours dans l'association. On a aussi de la chorale, quelque chose qu'on n'avait pas l'année dernière. On fait vraiment de l'éveil de l'enfant. Il y a pas mal d'activités. On sollicite les adhérents parce que, en fait, l'association, elle leur appartient aussi. Donc voilà, on essaye de toujours répondre au mieux à leurs attentes, quoi.
Je vois aussi donc les nouveautés pour la saison 2023-2024 qui est en cours, la boxe anglaise à partir de 13 ans ou encore de la marche fitness. Tout ça, c'est à retrouver en ligne sur le site cadet.fr. Cadence urbaine, là, l'événement dont on parle aujourd'hui, il a vécu sa première édition en 2023. On en avait déjà parlé. Comment ça a marché? Le public était nombreux.
Ouais, alors c'était notre première édition, c'était tout nouveau, donc beaucoup de stress, et puis finalement ça s'est super bien passé. On a eu à peu près à un instant T dans la journée 1000 spectateurs, et après en usager unique, après on a eu environ 2000 personnes qui ont en flux continu. Et puis le soir pour la battle, on a réussi à vendre 500 entrées, parce qu'il faut rappeler quand même que toute la journée est gratuite. C'est ouvert à tous. Et la battle du soir, par contre, est payante. Parce que c'est une qualification pour la compétition B-Boy, B-Girl France. Et donc, voilà.
Donc ça, c'était pour l'édition précédente. Et puis, il faut aussi noter quand même la présence des bénévoles qui ont rendu l'événement possible. Ils étaient 50 l'année dernière. Samedi 13 avril, vous remettez ça avec Cadence Urbaine, deuxième édition. Le rendez-vous, il est toujours donné au public dans vos locaux qui sont situés rue d'Entrain. Ça commencera à 14h et ça se terminera en soirée. Avec d'abord cette scène ouverte à vivre tout l'après-midi. On commence par ça, puisqu'on peut encore s'y inscrire si on a un talent. Quel qu'il soit.
C'est ça, c'est ouvert à tous. Cette année, le format il change un peu. L'année dernière, on avait ouvert la scène ouverte sur toute la journée. Cette année, ça sera du coup deux temps forts. Donc il y a un premier temps de 15h à 15h35 et un deuxième temps qui est de 16h40 à 17h20. Il reste encore de la place pour ceux qui veulent. En plus, cette année, il y aura beaucoup plus de visibilité. L'année dernière, on était dans une salle qui était un peu annexe. Là, cette fois-ci, ça sera sur le plateau sportif directement, donc au centre, avec toutes les autres activités. Et vraiment, ces temps seront vraiment dédiés à la scène ouverte et il y aura quasiment que cette activité qui sera en cours. Donc, ça permettra à tout le monde de venir voir les jeunes talents, ceux qui veulent montrer un petit peu ce qu'ils font, toujours dans la culture urbaine. Donc, ça promet d'être super intéressant.
Ça veut dire que si on fait de la danse, du rap, du chant, du breakdance, on peut venir participer à cette scène ouverte. Pour s'inscrire, ça se passe par email à l'adresse communication@cadet.fr. Cette journée, ce sera aussi l'occasion de s'essayer à différentes pratiques grâce à des temps d'initiation qui sont donc gratuits. Vous faites appel aux pratiquants en fait, des cadets de Bretagne pour proposer toutes ces initiations?
Alors, il y a plusieurs choses. On fait participer des intervenants externes et on fait aussi participer nos équipes aussi. Je pense par exemple à la boxe. Cette année, il y a de la boxe qui est représentée, qui est animée par un de nos salariés. Et après, on fait venir aussi des intervenants extérieurs pour le basket 3-3. On fait appel à l'avenir de Rennes. On a aussi le foot freestyle. Il y a deux jeunes freestylers de Rennes qui se produisent assez souvent sur la place des Lys qui reviennent cette année. Ils étaient venus l'année dernière. Ensuite, on a le parcours aussi qui est animé par nos salariés. Et cette année, on a pas mal de petites nouveautés. On s'axe beaucoup plus aussi à ouvrir à un public en situation de handicap. Donc, on propose des activités handisport. On va avoir du goalball et on va avoir plein d'autres petites activités sur le plateau de sensibilisation aussi par rapport au handisport.
Qu'est-ce que le goalball?
Alors, le goalball, je pense que Yann saura mieux l'expliquer que moi.
Le goalball, c'est un mix entre du foot, alors pas de ceci foot parce que le ceci foot ça se joue debout, là c'est du foot allongé, on lance le ballon avec la main. Alors c'est toujours pour les personnes déficientes visuelles, avec un ballon, avec une petite clochette, et le but est toujours le même, c'est de mettre le ballon dans une cage, et ça joue à 3 contre 3. C'est un sport olympique, donc il sera représenté au JO en 2024 là à Paris.
Dans les Jeux paralympiques, est-ce qu'il y a des disciplines qui fascinent plus que les autres, comme sur l'édition précédente que vous avez vécue de cadences urbaines?
Alors l'année dernière, il y a eu quand même un très gros engouement sur le foot freestyle. On a eu beaucoup, beaucoup de jeunes à venir s'essayer à la pratique. Et on avait aussi une arène PANA de petits ponts. Donc on a lancé un petit tournoi des petits ponts et ça a vraiment bien fonctionné. C'était une super énergie autour de cette arène.
C'est quoi les petits ponts? Je pose des questions vraiment de premier degré. Hein. Je ne sais pas ce que c'est.
Le petit pont, tout simplement, c'est en foot, c'est essayer de faire passer le ballon entre les jambes de notre adversaire. Et donc l'arène, c'est un jeu très très simple, c'est soit je mets deux buts, soit je fais passer le ballon deux fois entre les jambes de mon adversaire. Donc c'est un peu de chambre, mais aussi de la technique, marquer des buts, et ça marche très très bien vis-à-vis des habitants, là, des jeunes.
Le temps fort de la journée samedi prochain, ce sera à 19h avec ce qui va devenir une traditionnelle battle de breakdance. Vous l'avez dit, en fait, ça s'inscrit dans le cadre d'une compétition que vous faites venir ici. Que va voir le public?
Alors, que va voir le public? C'est le même format que l'année dernière. À peu de choses près, c'est que cette année, il y aura plus de shows et d'interludes. C'est organisé par tout le collectif B-Boy, B-Girl. Ils proposeront beaucoup plus de shows, de démonstrations.
C'est 70 danseurs qui viennent, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Et du coup, on aura des shows. Il y aura tout le Roison Crew aussi qui viendra faire des démonstrations. Et donc, ça va être super.
70 danseurs présentés comme les meilleurs de la région et qui seront pas là juste pour le plaisir, puisqu'il s'agit d'un concours, d'une compétition. Il y aura donc un jury professionnel qui sera là, un DJ pour animer l'ensemble, et donc la billetterie, elle est à retrouver en ligne sur cadet.fr, avec en gros des tarifs qui vont de la gratuité pour les plus jeunes jusqu'à 10€ en tarif plein. On peut déjà dire quand aura lieu la finale nationale de cette compétition?
Alors en général, ils le communiquent plutôt après, ils attendent que toutes les qualifications soient terminées. Mais du coup, je vous invite à, si vous êtes curieux de savoir quand est-ce que se déroulent les finales de ces qualifications, il faudra aller regarder directement sur les réseaux de B-Boy B-Girl.
L'événement, il est gratuit en journée, payant pour ce qui se passe en soirée avec la battle. C'est facile d'assurer un tel événement avec une gratuité? Est-ce que c'est parce qu'il repose avant tout sur du bénévolat que c'est possible?
Bah oui, c'est toujours un peu le cœur de, enfin le nerf de la guerre plutôt, la gratuité ou non, et effectivement ça repose sur pas mal de bénévoles, et d'ailleurs je lance encore un appel, on a toujours besoin de bénévoles, on ne sera jamais assez ou de trop. Il y a des missions pour tout le monde qui vont de l'encadrement, accueil, en passant par la vente de billetterie, vente de sandwich, enfin, c'est très 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 large, dans l'organisation aussi, pour trouver des nouvelles idées, trouver d'autres partenaires. Enfin voilà, pour le coup, on a toujours besoin et on est en recherche. Donc, si on veut aussi que ce festival pérennise, eh bien, on aura besoin de bénévoles. Après, on a quand même la chance d'avoir aussi des soutiens financiers sur la ville de Rennes, d'autres partenaires qui nous accompagnent aussi tout au long de l'année. Donc, ce projet, il existe aussi grâce à eux, quoi.
Donc le message est passé. Je voulais terminer avec quelques questions sur l'intérêt finalement d'un événement comme Cadence Urbaine, qui est encore jeune puisqu'on annonce là une deuxième édition. On imagine que c'est une invitation à destination des jeunes rennaises et rennais à se mettre en mouvement, peut-être aussi à rejoindre les cadets de Bretagne. Est-ce que vous avez pu voir un peu un effet inscription après l'événement de l'année dernière? Ça fait une sorte de vitrine en fait.
Alors l'effet inscription, on n'arrive pas trop à le mesurer, dans le sens où l'association revient sur le quartier depuis 4 ans et en fait est en développement perpétuel. Après, c'est un bon moyen aussi de tester des nouvelles activités et de se dire « Ah, cette activité a fonctionné, pourquoi pas la lancer ?» Et puis, on a toujours aussi en tête l'idée que les gens ont un déficit de visibilité sur notre association, parce que association de quartier, donc viennent se rendre compte des lieux, de l'ambiance qui y règne, et peuvent se dire, tiens, cette association, je m'y vois bien, et pourquoi pas y adhérer, quoi.
Dernière question, on sait qu'aujourd'hui certains professionnels de santé alertent sur la sédentarité des jeunes et des effets de cette sédentarité sur leur santé physique mais aussi mentale. C'est peut-être le moment pour terminer de redire à quoi ça sert le sport s'il fallait essayer de convaincre les plus réticents de venir à cet événement, jeter un œil à ce que vous proposez.
C'est ça exactement, en fait le but c'est de proposer des activités qui vont faire plaisir aux jeunes. Après il y a le sport, mais il y a aussi rien que le fait de se bouger, de se dépenser, d'aller voir des trucs, d'être curieux, de découvrir, de s'émerveiller même. Donc c'est un peu le but de cet événement, c'est de proposer un panel d'activités, de démonstrations qui nous permettra, qui leur permettra de se donner des idées, de peut-être venir même participer, de s'investir dans des projets, etc.
De s'y faire des amis aussi, on imagine.
Exactement, parce que c'est vraiment un moment qui est super convivial. On peut croiser en plus plein de personnes. On est vraiment, comme on l'a dit tout à l'heure, à la frontière en fait, de plusieurs quartiers. Donc c'est ça aussi, c'est un peu favoriser un peu ce mélange social. Du coup,
ouais, complètement. Et puis le festival est labellisé bouger 30 minutes par jour. Donc ça rentre pleinement dans l'idée, quoi.
On imagine que parfois il y a sans doute certains freins ou certaines limites à lever face à des jeunes qui arrivent en se disant non mais ça je suis pas capable, j'y arriverai jamais, et que finalement à la fin de la journée ça a pu fonctionner un peu, quoi.
Ouais, complètement. Bah oui, il faut toujours convaincre de ce qu'on est capable de faire, parce que bah oui, on a tous des idées limitantes en se disant bah non, j'en suis pas capable, et finalement en s'essayant et en se testant on se dit ah, je sais faire des choses, et c'est un peu une petite victoire pour eux aussi et pour nous d'avoir réussi à faire bouger les gens. Ce qu'on cherche, nous, c'est pas à devenir des futurs professionnels de double dutch, par exemple.
Qu'est-ce que c'est ? Je vais te demander.
Les double dutch, c'est de la corde à sauter, finalement. Donc c'est par trois, un qui est au milieu avec deux cordes à sauter qui bougent. Et donc l'idée, voilà, c'est pas de devenir un professionnel de double dutch, mais c'est juste s'amuser, prendre du plaisir pendant ne serait-ce que 30-40 secondes et se dire ah, c'était divertissant, c'était sympa, j'ai fait un peu d'exercice physique, et puis et en fait c'est gagné, quoi.
Je vous représente tous les deux, Johan Gageot et Armel Henry. Vous êtes donc salariés chez les Cadets de Bretagne, une association qui organise Cadence Urbaine, deuxième édition. Ça se passe samedi prochain, le 13 avril, dans vos locaux qui sont situés rue d'Entrain. Donc on est dans le quartier Maurepas. On peut y aller en bus, on le dit, vu que le métro est toujours en panne. Voilà, on prend le C3 pour s'y rendre. Les infos et la billetterie, c'est en ligne sur le site cadet.fr. Merci beaucoup.
Merci à vous. Sometimes a notion, a great notion, it's just shit, shit that you shouldn't, shit that you shouldn't do. Other times a notion is an explosion, and that explosion, it was you. I was old but I was green, so you had to set the scene. You said if I do this for you, boy, you better follow. You better follow. Yeah, you better follow through. You were my teacher, my glorious second feature. You told me how to know if love, how to know if love is, how to know if love is true. I got your back, no matter what. I found a reason to be true. I got your back, no matter what. I found a reason to be true. Sometimes a notion, a great notion. Other times a notion is an explosion. I was old but I was green, so you had to set the scene. You were my teacher, second feature. You were my teacher, second feature. You were my teacher, my second feature. I got your back, no matter what. I found my reason to be true. I got your back, no matter what. I found my reason.
Sand Pebbles avec le morceau Sometimes a Great Notion. C'était une presque nouveauté musicale repérée par Yann, notre programmateur ici à la radio, et que vous pouvez retrouver sur un album, The Antagonist. C'est sorti à l'automne 2023 et c'est le 7e disque pour ce groupe de rock légendaire originaire de Melbourne. Vous écoutez La Reine, l'émission d'information locale de Canal B. Cette émission, elle s'écoute du lundi au vendredi à 17h et puis en rediffusion à chaque fois le lendemain matin. Et je le dis régulièrement, c'est une émission qui vous tend son micro. Si vous avez des actions ou événements à évoquer auprès des auditeurs, que ce soit avec votre association, votre collectif ou même avec une institution, tant que ça rentre dans le champ de l'information locale, environnement, vie étudiante, féminisme, etc., vous pouvez m'en informer à l'adresse lucie@canalb.fr et je reprends contact avec vous pour vous proposer un échange ici en studio, pourquoi pas un reportage sur le terrain, et on peut aussi faire quelques annonces sous forme de recommandations du jour. Allez, on continue cette émission avec un portrait radiophonique. Cette année, votre Radio Curieuse fête ses 40 ans. À cette occasion, je vous fais découvrir un peu plus amplement les petites mains qui font vivre la radio de façon bénévole. Vous les entendez dans diverses émissions. Le troisième épisode de cette série de portraits radiophoniques, c'est avec Antoine Filias. Il anime depuis 2017 le Tri Sélectif, à écouter chaque dimanche sur le 94.0, évidemment, à partir de 19h.
40 ans, non, ce n'est pas possible. 40 ans. 40 ans, 40 ans, 40 ans, mais 40 ans déjà, je n'ose pas le croire. 40 ans, 40 ans. Hey, 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 hey.
Oh, si c'est pas mignon.
Je me souviens d'une belle journée au musée des Beaux-Arts d'Angers en 2013 où David Armandjoun, alias Yaya, alias Black Yaya pour l'occasion, nous jouait les chansons de son nouvel album solo, très pop et enthousiasmant, à l'image de cet extrait qui débute donc la deuxième partie de notre focus sur la discographie d'Armandjoun. Bienvenue dans le Tri Sélectif.
Il faut savoir être à l'écoute. Aujourd'hui, nous avons travaillé une chose facile, « Die Zurnenartist gefahrt lust » de Schubert. Et demain, nous travaillerons les Beatles. Les Beatles.
Chaque dimanche à 19h sur Canal B.
Disons que leur son n'est pas inintéressant au niveau compression analogique.
Le Tri Sélectif recycle les chansons oubliées.
Ouais, enfin, encore que je trouve personnellement moi-même que c'est un petit peu soft au niveau des échantillonnages. Enfin, bon, c'est personnel, quoi.
Ah bon, tu trouves ?
Ah ben, complètement.
La semaine dernière, on a donc exploré la discographie d'Armandjoun, de leur début en l'an 2000 jusqu'à la séparation des frères David et André en 2006. Et on
avait je m'appelle Antoine, je vis à Rennes depuis 7-8 ans maintenant. Je suis originaire du Maine-et-Loire, de Cholet. J'anime le Tri Sélectif, qui est diffusé tous les dimanches à 19h depuis 2017. J'ai 33 ans. Quand je ne suis pas à Canal B, je suis barman à la Deuxième Chaussette, un bar rue de Dinan. Je suis également auteur, j'ai publié 3 romans. Le dernier s'appelle Plexiglas aux éditions Asphalte. Et le prochain sortira en mars 2025.
Est-ce qu'on peut dire quelques mots sur le dernier roman qui est paru, puisqu'il nous emmène dans un territoire que tu connais bien ?
Ouais, Plexiglas se déroule à Cholet, la ville où je suis né, où j'ai grandi, et se déroule en huis clos dans la galerie commerciale de Carrefour, et suit la vie, la solidarité de notamment deux travailleurs, une caissière bientôt à la retraite et un jeune qui revient là et qui se fait embaucher comme vigile. C'est la chronique de leur vie, de leur travail durant l'année 2020, donc ça évoque aussi les solidarités du monde du travail durant l'année du Covid, et voilà, et c'est aussi rigolo, hein, c'est vendu comme ça a l'air tragique, mais j'espère que c'est drôle et que les personnages sont attachants. Alors j'ai commencé la radio ma première année de fac en 2008 à Angers, Radio Campus Angers, où j'ai commencé comme bénévole, donc ça fait maintenant un peu plus de 15 ans, et je faisais une émission en tant que bénévole. J'ai ensuite été service civique à Campus Angers, puis j'ai été salarié, j'étais responsable de l'antenne et du recrutement, je faisais des formations à la radio auprès des publics jeunes. Et j'animais des quotidiennes, je faisais un peu tout. J'ai eu plein d'émissions jusqu'en 2015, ouais. Et puis ensuite, quand je suis arrivé à Rennes, je me suis dit, j'ai envie de recommencer, mais sans les responsabilités, sans la partie asso. Même si j'ai rejoint le CA un petit peu, mais pas très longtemps, parce que je me suis rappelé à quel point c'était pas pour moi. Et simplement avoir une émission hebdomadaire et tout seul, avec des invités de temps en temps, mais tout seul, que je gère. Et c'est un plaisir, même. Ça fait, on est dans la 7e saison.
Et au départ, qu'est-ce qui t'a attiré vers le monde de la radio ?
C'était surtout, avant tout, par goût pour la musique et par goût pour transmettre la musique que j'aimais, ou d'un point de vue, et c'est toujours le cas avec le tri sélectif aujourd'hui, j'étais déjà très snob et je me disais, oh là là, j'entends pas ce que j'aime à la radio, donc je sais mieux que tout le monde, je vais vous montrer ce que c'est la bonne musique, et donc c'était cette envie-là de partager. J'avais aussi, c'était marrant parce que là où j'ai grandi à Cholet, on captait très peu de radio, on n'avait pas les radios de Radio France, déjà bizarrement, j'ai dû entendre FIP, France Inter, tout ça pour la première fois à mes 18 ans en arrivant à la fac à Angers, et on captait les radios chrétiennes et puis les grosses radios commercial, et donc c'était difficile d'entendre, il y a un petit peu de rock à un moment sur Europe 2, mais ça a vite changé, et donc arriver dans une radio associative où on te dit tu peux préparer ta programmation, tu peux passer à le micro, j'étais pas du tout intimidé par ça, en plus parce que je faisais du théâtre, j'aimais bien faire mon intéressant, donc là tout ça en même temps, et puis en plus rencontrer d'autres gens qui animent d'autres émissions et tout ça, vraiment c'était chouette, le principe des radios campus, en plus on les connaît, c'est très formateur, c'est un bon ajout aux études, et puis de le voir de version la version adulte, la version aussi avec plus d'ancienneté comme Canal B, c'est chouette aussi.
Comment est-ce que tu décrirais ta voix et quel regard tu portes sur elle ?
Ma voix, alors déjà bizarrement, j'ai pas de soucis à m'entendre. Peut-être par habitude aussi au bout d'un moment, mais je crois pas en avoir déjà eu. J'ai eu aussi la chance de pouvoir faire des formations autour de ça, ce qui fait que je pense qu'elle a pu être mieux à une époque. Aujourd'hui, je fais plus trop d'efforts, en vrai. Quitte à dire parfois un peu en pilotage automatique, et des fois je me rappelle, je dis, fais quand même gaffe, et puis t'es chiant là, ta voix elle est chiante. Alors j'essaie des fois de faire un peu attention. Après mes émissions, je les écris beaucoup, donc je fais attention à ça, mais je me pose plus trop la question, donc merci de me la poser. Voilà.
De faire attention à quoi ? À des tics de langage ? À des formulations
Ouais. Quand on parle de musique, notamment, mon émission elle est musicale, on a tendance à rabâcher souvent les mêmes adjectifs, donc je fais très attention à ça. J'écris aussi mon émission, et ça on me l'a appris, pour justement me débarrasser des tics de langage. Des formules toutes faites, ou en tout cas si elles sont faites, c'est moi qui les ai faites, elles viennent pas... les du coup ne viennent pas comme ça, ils sont écrits les du coup, pour donner un exemple de tic. Et puis voilà, j'aime bien le montage, j'ai fait beaucoup de direct et j'aimais ça, et ça me manque un peu, mais aujourd'hui, en tout cas pour le tri sélectif, c'est beaucoup plus simple d'enregistrer, et ça permet en effet de faire attention à tout ça.
Chers auditeurs, l'heure est grave. Chaque année, la presse musicale nous dessert son lot de classements en tout genre, les 100 meilleurs albums de tous les temps, les 500 chansons à écouter avant de mourir, le top 60 définitif des années 60. Vous êtes jeune, naïf, influençable, et au moment de commencer votre collection de disques, c'est vers ces éternels chefs-d'œuvre que votre attention se tourne, ces Sgt Pepper, ces Pet Sounds et ces OK Computer. Mais qu'en est-il de tous ces albums médiocres, bâclés, dispensables, qui se retrouvent perdus au milieu des bacs à soldes et au milieu de discographies trop grandes ? Qui osera les sortir justement des bacs à soldes pour qu'on leur donne une deuxième chance ? Et bien moi je m'appelle Johnny Clash et j'ai consacré ma carrière d'avocat à défendre les disques sous-estimés, à mettre la lumière sur des fautes de goût injustement assassinées par la critique. Après des années à combattre dans l'ombre, Canal B a décidé courageusement de m'offrir une tribune. Chers auditeurs, l'heure est grave, ensemble nous allons déterrer des chefs-d'œuvre, des bouses deviendront de l'or et la vérité sera rétablie. Et cette première émission sera consacrée à mon client le plus fidèle, celui qui a enregistré, plus de bouses que n'importe qui, et des bouses que je ne saurais pas toutes défendre, mais en tout cas, cette semaine, on va s'arrêter sur une en particulier, c'est une bande originale de film. Le garçon dont je parle, on a fêté en août dernier les 40 ans de sa mort, vous le connaissez.
This is the news as we have it so far, and CBS-FM News is following up on this. The Associated Press is reporting that singer Elvis Presley has died at Baptist Hospital in Memphis, Tennessee, at the age of 42.
Le tri sélectif a 7 ans ?
C'est ça, ouais.
Comment est-ce qu'on présente ton programme aux auditeurs s'ils ne sont pas encore tombés dessus ?
Eh bien, c'était parti au départ, je voulais vraiment... parler d'albums pas aimés, soit qui n'ont pas marché, soit qui sont considérés comme mauvais. Très vite, le concept a évolué, où maintenant, parce qu'on arrive à presque 250 épisodes, je choisis à chaque fois autour de différentes thématiques. Par exemple, si je vais parler de la discographie d'un groupe très connu, je vais aller chercher pour le coup les albums moins connus. Ou si on parle d'un label, je vais aller chercher... Voilà. Je m'intéresse aux discographies. Je crois que le terme qu'on a pris, c'est discographie recyclée, c'est ça. J'aime bien être méthodique et faire le tri. On me dit, par exemple, Neil Young, je connais trois albums les plus connus. Est-ce qu'il y en a d'autres après ? Bah oui, il y en a 50. Donc on va aller voir qu'est-ce qu'il y a à prendre, qu'est-ce qu'il y a à acheter, etc. Et puis c'est évolutif. Parfois, j'ai des invités. Là, je viens de recevoir l'association des Pichikai pour me parler de leur groupe qui programme dans leur festival Pipe à la Pop. Et du coup, ça nous a permis d'évoquer plein de groupes que je connaissais pas forcément et d'aller chercher. Voilà. Le but, c'est comme beaucoup d'émissions, d'aller découvrir de la musique. Moi, j'ai un concept que je garde assez lâche pour pouvoir faire plein de choses et puis m'amuser. Et pourquoi pas, de temps en temps, faire des émissions en public comme j'ai pu le faire, varier les thèmes, puis parfois se lâcher. Là, je prépare une double émission sur la discographie de Brigitte Fontaine, par exemple. Donc là, on va bien rigoler.
Et alors, du coup, c'est considéré que, à Canal B, c'est pas forcément surprenant, mais pour des auditeurs d'autres radios, peut-être, c'est considéré que ce n'est pas la popularité d'un titre ou d'un album qui en fait sa valeur.
C'est ça, c'est que j'avais souvent entendu, moi je suis fan de Bob Dylan, et c'est un exemple où souvent on dirait Bob Dylan, j'aime bien 2-3, c'est toujours les mêmes albums qui reviennent, il y en a pareil 50, et c'était nul ce qu'il a fait dans les 80, 90, il fait plus rien maintenant. Bah non, moi je dis attendez, il y a plein de choses, et je fais un peu un guide du consommateur à ma façon, pour dire attendez, il y a moyen d'aller écouter autre chose, et en fait c'est le cas pour des gros artistes comme Dylan, mais c'est le cas pour plein d'autres, où par exemple, je vais faire une émission sur Cat Power, on va peut-être connaître un album de Cat Power, notamment celui de 2006, The Greatest, qui a bien marché, mais c'est pas mal d'aller écouter ce qu'elle a fait avant, puis aussi, faut continuer. Il faut être fidèle à un artiste, qu'est-ce qu'elle fait depuis ? Elle sort un album tous les 2 ans, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien ? On va aller écouter en tout cas, à vous de juger.
Là, on a cité des noms d'artistes populaires dont tu vas chercher des choses peut-être un peu oubliées. Est-ce qu'on pourrait donner un exemple d'artiste qui, pour le coup, n'est pas populaire aujourd'hui, dont on a oublié le nom et que tu as ressorti un peu des archives, des cartons ?
Il y en a pas mal. Moi, j'ai commencé très vite, je crois que c'était mon 6e épisode. Alors, c'est connu, mais tu vas me dire Yoko Ono. On connaît Yoko Ono, mais Yoko Ono a toujours souffert du patriarcat et du sexisme dans le monde de la musique et des boomers en tant que
femme
d'eux, femme qui a détruit les Beatles. Ce qui est totalement faux, mais surtout ce qu'on oublie, c'est que Yoko Ono, c'est une artiste, visuelle d'accord, mais aussi musicale, et c'est pas que des cris abominables. Il y a des albums pop magnifiques, notamment si vous êtes fan de Lennon, il y a des albums qui sont produits par Lennon, où il chante pas, mais où il produit, et j'ai vraiment voulu faire redécouvrir sa discographie. Donc ça, c'est voilà, un exemple de quelqu'un de connu, mais dont la musique est pas connue, et même plein de préjugés.
En 71, alors que John enregistre Imagine avec Phil Spector, Yoko travaille sur Fly dans les studios Abbey Road. C'est encore un album très marqué par le mouvement Fluxus, notamment avec un packaging très original, mais musicalement c'est déjà bien plus accessible. On est sur un mélange d'expérimentation avant-gardiste et de rock psyché, avec même Eric Clapton qui pose 2-3 riffs. Si on le coupe de moitié, je dirais que Fly est même un chouette album. On écoute Mrs. Lennon avec Monsieur Lennon au piano.
Et puis après, il y en a plein. J'ai fait une émission sur Tons Van Zandt, qui est un chanteur folk assez peu connu, sauf si on connaît le milieu, mais voilà, et qui a un parcours assez particulier, qui était dépressif, qui a sorti des magnifiques albums jusqu'à la fin de sa vie. On connaît peut-être 2-3 morceaux des années 60, mais beaucoup moins ce qu'il a fait dans les années 80, 90 jusqu'à sa mort. Ça m'a fait plaisir à faire aussi pour prendre un exemple plus récent.
Si je n'avais aucun endroit où tomber, pourrais-je m'écrouler sur toi ? Encore une balade magnifique signée Tons Van Zandt, dont je vous conseille aussi la reprise plus récente par Kevin Morby, un fan du songwriter texan maudit dont on est en train de revisiter la discographie dans le tri sélectif sur Canal B.
L'émission, elle dure une heure. Comment est-ce que tu l'as construit ? Et est-ce que c'est un travail en continu dans ta semaine ? Est-ce que c'est plutôt des moments dans l'année où tu vas mener des recherches plus approfondies ?
Alors, pour être dans les coulisses, moi j'enregistre mes émissions, je les fais pas en direct et je les enregistre même pas dans les conditions du direct, c'est-à-dire j'enregistre juste ma voix et après je fais le montage avec les morceaux chez moi. Ce qui fait que je peux venir à Canal B peut-être des fois une fois par mois, mais je vais en enregistrer 4 d'un coup, ça va me prendre 20 minutes quoi. Le montage après c'est le boulot, mais le plus gros boulot c'est l'écriture en effet. Et l'écriture, bah ça, je me dis ok, je vais avoir à peu près 30 émissions par an, 30 à 35 émissions. Je me dis les thèmes que je vais avoir. Je place aussi parce qu'à force, au bout de cette saison, j'ai des incontournables. Tous les ans, je fais une émission de Noël. Je fais un requiem à la fin de l'année où je vais voir les artistes qui sont morts qu'on connaît pas. Tous les ans aussi, je m'intéresse on est une année en 4. Alors, je vais chercher les trésors oubliés de l'année 64, 74, etc., jusqu'en 2014. Donc ça, je les place. Après, quel groupe j'ai pas encore évoqué? Quel concept je peux avoir? Tu vois, j'ai commencé le début de l'année en me disant, tiens, on va s'intéresser à des artistes très connus de la musique française, Jacques Higelin, tout ça. Et on va aller chercher leurs albums qui sont moins vendus. On va écouter ce qu'il y a dedans. Et j'ai découvert des trucs vachement bien. Et notamment, j'ai découvert Eddie Mitchell qui reprend Stevie Wonder, des choses comme ça. Et peu à peu, l'année se file. Moi, je les écris, je fais comment j'ai le temps. Si à un moment je tombe malade, j'en sais rien, bah tant pis, il y a une rediff. Voilà. Ça me prend du temps, mais ça me fait plaisir, évidemment, sinon je le ferais pas. Même si tous les ans, en fin d'année, je me pose toujours la question, est-ce que je continue ou pas? Est-ce que j'ai épuisé mes sujets? Est-ce que je change d'émission, de concept? Et puis finalement, non, j'arrive toujours à trouver des trucs. Des fois, d'avoir des invités, ça me permet de renouveler aussi les sujets possibles. Donc voilà, c'est encore vivace, ça me fait encore plaisir, ça me fait encore vibrer, sinon je le ferais pas.
Tu dis que tu passes finalement assez peu de temps en studio. Est-ce que c'est quand même un moment particulier dans ta semaine ?
Je vais pas te mentir, c'est pas du tout un moment vraiment détente, puisqu'en général, moi, je travaille et puis entre l'écriture et le travail de barman, j'habite pas du tout près de Canal B. Donc moi, parfois, venir enregistrer, je vais pas te mentir, c'est parfois une corvée où je me dis, c'est pour ça des fois, j'en écris plein à l'avance pour pouvoir venir qu'une fois dans le mois, parce que j'organise le truc, je viens là, puis il faut aussi que j'ai d'autres trucs à faire. Je vais au champ libre, je vais aller faire d'autres choses. Et puis en fait, c'est un moment qui dure 15 minutes et qui est très solitaire. Donc, le partageant pas, là, à l'instant où tu m'interviews, je viens d'enregistrer une émission avec des invités. Et là, c'était un vrai plaisir d'avoir du monde dans le studio. Ça m'a rappelé quand je faisais de la radio tous les jours. Et là, c'était un grand plaisir. Ça manque parfois d'ailleurs. Et en même temps, ce côté solitaire, je l'aime bien aussi. Mais c'est pas un moment de fête, c'est vraiment très pragmatique. C'est ok, il faut capter cette voix. Et je vais pas te mentir, si j'avais un studio chez moi, je crois que vous me verriez jamais. Mais c'est pas le but de la radio associative aussi. Ça me fait plaisir de voir les gens et voilà.
Est-ce que tu as des retours sur ton émission ?
J'en ai très peu, mais j'en ai de plus en plus par contre. Et j'en ai d'autant plus quand je suis au bar et que parfois on va me dire, notamment des amis, des habitués, « Ah bah tiens, j'ai entendu ta dernière, machin, et ça fait toujours plaisir. » J'ai une habituée notamment qui me dit souvent, en plus j'ai un horaire qui permet ça, et je tiens vraiment à mon horaire, qui est la case du dimanche à 19h, où il y a pas mal d'étudiants qui reviennent, où il y a des gens, ils font des tâches ménagères, et elle me dit toujours, je suis en train de repasser le dimanche et je mets toujours ton émission. Moi ça me plaît, je fais pas ça, je m'en fous d'avoir des retours et tout ça, par contre moi quand j'enregistre l'émission et quand je la prépare, j'ai toujours en tête les gens dans leur voiture qui rentrent, les gens qui font la vaisselle, qui font les moments où on écoute la radio quoi. Et ça me fait plaisir, beaucoup plus que le podcast, c'est chouette de savoir qu'elles sont réécoutables, mais je me pense surtout au moment où à 19h, d'ailleurs des fois je fais les émissions en fonction, tiens je vais faire une émission sur un groupe un peu folk, c'est un peu hivernal, donc ça je vais plus la faire en novembre-décembre, plus à l'automne. Je vais faire un truc sur la pop californienne, ça je vais faire au mois de mai quand les beaux jours vont revenir, ça. Le mec il va revenir, l'étudiant il va revenir dans son truc, il va entendre ça va lui faire plaisir. S'il en est que les gens écoutent encore la radio, ça je sais pas.
Tu te projettes en termes d'ambiance, quoi.
Exactement.
Vous écoutez le mash-up de Noël du Tri Sélectif sur Canal B. On vous souhaite de joyeuses fêtes et on vous laisse savourer cette sélection des chansons de Noël les moins connues de la musique américaine. Il y en a un paquet et si vous voulez savoir quel artiste est passé dans cette sélection, vous retrouverez toute la liste et le podcast sur le www.canalb.fr.
Es-tu un auditeur de radio ? Et est-ce que ça peut-être inspirer ton travail ? Et c'est aussi le moment où on peut donner des recommandations de coups de cœur, de trucs qu'on a entendus aux auditeurs.
Alors je fus un grand consommateur de radio, même à un moment j'étais salarié dans une radio, donc j'avais besoin d'écouter ce qui se faisait ailleurs, notamment dans les radios associatives et aussi les radios commerciales, les radios d'État. Aujourd'hui beaucoup moins, pense que comme beaucoup de gens, je suis passé beaucoup au podcast et j'écoute toujours la musique mais sans forcément des émissions musicales. J'ai des émissions que j'écoute toujours sur Canal B, d'ailleurs Le Cinéma est mort, hein, que j'écoute chaque semaine, mais je l'écoute en podcast. Voilà, j'avais une petite radio, un petit poste de radio qui était justement à côté de la douche, que je transporte portais à côté de l'évier pour faire la vaisselle, tout ça. Aujourd'hui, beaucoup moins, je dois l'avouer. Mais parfois, il m'arrive de tomber sur des choses. Et il y a des radios associatives qui me tiennent toujours à cœur, en dehors de Canal B, évidemment. Je sais qu'à Radio Grenouille, qui est en fait Radio Campus Marseille et qui est disponible sur Internet, ils font un immense travail de militants, de radios, d'inventions, de créations sonores, qui est passionnant. Donc vraiment, je recommande d'aller écouter ce qu'ils font à Radio Grenouille.
Et alors, ton regard sur Canal B, même si tu t'obliges à garder ce rendez-vous, pourquoi y rester ?
Alors j'y reste. Alors Canal B, déjà, il faut savoir que je disais tout à l'heure que quand j'étais salarié à Radio Campus Angers, j'écoutais d'autres émissions, d'autres radios associatives pour me donner un exemple. J'avais toujours en favori dans mes onglets le site de Canal B, le vieux site de Canal B, dont les fans de jeunes se souviennent. Et je regardais souvent la grille, même quand je faisais du recrutement de bénévoles. Je disais, bah, si vous la regardez, vous n'avez pas des émissions, allez voir sur Canal B, il y a une super grille et tout ça. Donc j'ai toujours été admiratif. Et de manière générale, quand j'étais à Angers, j'étais admiratif de Rennes. J'avais le rêve rennais en tête. Et pourtant, j'ai fait beaucoup de stages dans des radios à Nantes, notamment Prune ou d'autres radios. Mais Rennes était beaucoup plus punk, rock'n'roll, sale que Nantes, beaucoup moins, me semblait moins bourgeoise, me semblait moins parisienne, même si depuis l'histoire m'a rattrapé, et les Parisiens aussi. Mais donc voilà, et Canal B représentait ça aussi, comme le bistrot de la cité pouvait le représenter. Et puis une fois que j'ai vu ça, une fois que je suis passé au-delà des vieux boomers rennais qu'on trouve ici au bistrot de la cité ou ailleurs, j'ai vu qu'il y avait plein d'autres choses, j'ai vu qu'il y avait encore des gens qui créaient sans arrêt des nouveaux formats. Et Canal B, je la vois évoluer avec ça. J'ai eu peur, à un moment, je m'étais mis dans le CA, puis je voyais, c'est le problème de radio vieillissante, où je voyais des vieilles histoires, des machins, des trucs, où je me disais, ah mais on s'en fout quoi. Et en même temps, c'est normal. Mais en même temps, je trouve que Canal B est très saine, parce qu'elle sait se renouveler, à l'antenne comme dans les coulisses. Et ça, moi j'en ai vu des radios vieillir, et j'en vois même des plus vieilles ou des moins vieilles, mais qui se prennent la tête, où on sent que c'est un peu moisi, un peu pourrissant. Là, pas du tout. Il y a à la fois des incontournables qui sont là, qui seront là jusqu'à la tombe, et en même temps, il y a toujours des forces vives. Je donnais un coup de cœur tout à l'heure avec Le Cinéma est mort, mais je t'ai incité aussi Bon Jouir, qui est par exemple, pour moi, depuis que je suis arrivé à Canal B, un exemple d'entrée dans la grille que je trouve super.
Émission d'Agathe Jeannot à écouter aussi le dimanche soir sur Canal B.
Et je vous laisse avec une jolie reprise du Jokerman de Dylan, proposée par Yaya en 2010. Yaya, qui est un fin connaisseur de l'œuvre de Dylan, et a même repris en intégralité son disque trop mal aimé, Shot of Love, sur scène en 2012. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine, si tout va bien. Standing on the waters, casting your bread, while the eyes of the idol with the iron head are glowing. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you're doing it now. I know that your love was my undoing, but it's your money that got in the way. Whenever things they got a little trouble, you pack it up and take a holiday. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you're doing it now. We've got to trust each other blindly. Only then will we have eyes to see. What we make of life, it never comes easy. Our hearts are tempered by adversity. Just as the baby cries out for its mother, so we all have to cry out for each other. And like the willow bending with the breeze, so we're bending with each other's needs. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing.
It's so easy when you're doing it now. It's so easy when you know what you're doing. Yes, it's so easy when you know how. It's so easy when you know what you're doing. It's so easy when you're doing it now.
It's so easy when you know what you're doing. C'est le morceau que vous venez d'entendre sur Canal B. Un morceau de Ted Lucas, musicien qui a joué en solo et en groupe dans les années 60-70. Et là, ce titre, eh bien, c'était le choix musical d'Antoine Filias que vous venez d'entendre dans un portrait radiophonique. C'est lui qui anime le tri sélectif chaque dimanche sur Canal B. Le titre, il est à retrouver sur un album éponyme qui est sorti en 1975 et dont vous venez d'entendre un extrait sur Canal B dans l'arène, l'émission d'information locale qui se poursuit et qui se termine même avec la recommandation du jour. La recommandation du jour, c'est à chaque fois en fin d'émission des petits conseils d'événements à vivre près de chez vous, aussi des idées de lecture, de podcasts et de documentaires, parfois d'associations à suivre sur le territoire rennais. Aujourd'hui, deux conseils de sortie. D'abord, un ciné-débat ce lundi 8 avril à 20h, vous avez encore le temps de vous y rendre, et direction le formidable cinéma L'Arvor pour une soirée qui est organisée par le planning familial d'Ille-et-Vilaine et Nous Toutes 35. La couleur sera donc féministe. Le film projeté, c'est En bonne compagnie, un film espagnol de 2023 qui nous emmène au Pays Basque durant l'été 1977. Béa, elle a 16 ans, elle rejoint le mouvement féministe qui traverse le pays et tandis qu'elle s'engage dans la lutte pour le droit à l'avortement, elle rencontre Myrène, une jeune femme de bonne famille qui fera de cet été une étape décisive de sa vie. Vous l'imaginez, le film, ce sera le point de départ à une discussion après la projection, discussion autour du droit à l'avortement et des luttes féministes passées et actuelles en Espagne, mais aussi en France. Deuxième recommandation, un spectacle à voir mardi 9 avril à 20h au Tambour et pour lequel il reste des places, un événement du service culturel de Rennes 2 en partenariat avec le festival Mythos et le festival Sirène. Backlash, c'est le titre de ce spectacle imaginé par le groupe Vertigo et on part au Kentucky de nos jours où Danny est un homme comme tant d'autres. Un homme divorcé, installé avec sa nouvelle copine et père d'un adolescent qu'il ne voit jamais. Un homme qui a été licencié en temps de crise d'un boulot bien payé pour retrouver un boulot plus ingrat. Un homme frustré donc, qui surfe sur internet et tombe un jour sur une vidéo qui parle des droits masculins, avant de glisser lentement dans un engrenage masculiniste. La billetterie est à retrouver en ligne sur le site billetweb.fr et on précise que cette création, elle est proposée en lien avec un mardi de l'égalité sur le même thème. On l'annoncera demain, ce mardi de l'égalité, en compagnie de l'intervenante. C'est un rendez-vous qui affiche déjà complet, mais a priori, il y a régulièrement des désistements si on se présente sur place juste avant le rendez-vous.
Hi everyone. I've decided to come back with a primer on borderline personality disordered women and the danger they represent to men.
Depuis les tacos, l'ambiance a été un peu tendue entre Courtney et moi. Mais elle arrête pas de faire des petits commentaires, du genre « Tu peux me passer le sel, Danny, si ça porte pas atteinte à tes droits fondamentaux ?» Ou bien « Ohé, Danny, ici, dans la matrice, faudrait sortir les poubelles !» Que vous sachiez.
Lots have been said by various commentators about how Me Too is basically a witch hunt, which it is.
C'est terminé. Une émission d'information locale à écouter du lundi au vendredi à 17h sur Canal B et en rediffusion à chaque fois le lendemain à 8h. Pour suivre l'émission, pensez à vous abonner à la newsletter, le courrier de la reine, le détail et les podcasts sont à retrouver sur canalb.fr. Allez, je vous dis à bientôt.